Voilà. Alors, on va parler des dix plaies d'Égypte, parce que à travers les dix plaies d'Égypte, je vais répéter ce que j'ai dit, mais d'une manière différente, parce que les dix plaies d'Égypte, c'est une histoire qui systématise la manière dont on exerce l'autorité. Donc, en deux mots, Pharaon refuse de laisser sortir le peuple hébreu d'Égypte, et le Seigneur va opérer par la main de Moïse et Aaron un rachat des Hébreux, et une prise d'autorité progressive, c'est-à-dire par la main de Moïse et Aaron. Le Seigneur, petit à petit, va grignoter sur l'autorité de Pharaon pour que les brebis que sont le peuple hébreu reviennent dans le pâturage du Seigneur, alors qu'ils étaient dans des mauvais pâturages où il y avait plein d'ivraies. Comme si le Seigneur défaisait les liens progressivement, et donc ça va se faire toujours avec un moment et un lieu opportun. Je vous ai mis une colonne qui s'appelle « Où et quand ?». On voit que pour chacun des prodiges, Moïse et Aaron vont aller voir Pharaon, soit chez Pharaon, donc d'une manière personnelle, soit de manière publique, c'est ce que j'ai mis en noir, le matin, près de Pharaon, sur la rive du Nil, voilà. Donc là, c'est devant tout le monde, soit à distance, c'est-à-dire, ils vont faire une prière, et voilà, mais ils vont pas voir Pharaon, vous voyez. Donc on voit déjà que notre exercice de l'autorité, une partie de la fécondité dépend aussi de est-ce qu'on a fait au bon moment et au bon endroit, enfin de la bonne manière finalement, la réprimande ou l'exercice de miséricorde. Voilà. Donc soit seul à seul, soit devant tout le monde, soit à distance. Donc c'est la colonne où et quand qui est au milieu du... la ligne où et quand. Alors, on a pour Pharaon, là, il y a une colonne qui s'appelle pour Pharaon, le Seigneur va défaire les liens, voilà, j'en étais là. Le Seigneur défait les liens à la fois pour Pharaon lui-même, qui est en fait le diable qui va se battre contre nous, hein, pour ne pas que nos brebis soient rachetées, pour ne pas que nos brebis montent vers le ciel, pour ne pas que nos brebis rencontrent le Seigneur. Donc c'est la ligne réaction de Pharaon, où on voit comment... À travers Pharaon, on voit que le démon va s'acharner, va refuser des choses, et va négocier, et va essayer de prendre d'une main et retenir de l'autre, etc. On a une ligne qui s'appelle « pour son entourage ». Alors, la réaction de l'entourage, ça désigne la fécondité de notre autorité sur les personnes qui nous entourent, mais qui ne sont pas forcément sous notre autorité. C'est-à-dire qu'il va y avoir un témoignage.
C'est laquelle colonne ?
C'est la ligne, pardon, réaction de l'entourage, ici. Voilà. Réaction de l'entourage, donc on voit un certain nombre de personnes qui entourent Moïse et Aaron, réaction de l'entourage, qui ne sont pas sous l'autorité de Moïse et d'Aaron et qui pourtant, petit à petit, vont être touchés. On le voit parce que les magiciens ne vont plus pouvoir imiter Moïse et Aaron, puisque petit à petit, ils vont se rebiffer contre Pharaon. Vous voyez, il y a une fécondité, alors que pourtant, ils ne sont pas sous l'autorité. Et il y a une fécondité pour le peuple hébreu. Donc moi, j'ai appelé ça la ligne en jeu, donc 1, 2, 3, 4, la quatrième ligne, celle-ci. Donc l'enjeu, en fait, c'est de quelle manière Moïse et Aaron vont provoquer certaines vertus dans le peuple hébreu. Voilà, c'est ça qui va se passer. Quand ils vont faire preuve de miséricorde ou de justice, eh bien c'est ça qui va se passer pour le peuple hébreu. Et donc cette séparation est de plus en plus perceptible entre les deux peuples, puisqu'on a... Alors là, c'est la dernière ligne tout en bas, la distinction égyptien-hébreu. Petit à petit, les fléaux qui ne vont pas frapper les Hébreux. À partir du quatrième fléau, qui est la vermine, on a une distinction de Gozen, parce que les Hébreux habitent le pays de Gozen, c'est l'endroit où Jacob est venu s'établir. Et dans ce pays-là, eh ben, c'est un pays qui est protégé. Voilà. Gozen, ça veut dire lieu du soleil, terre de force, terre herbeuse. Et pour nous, le pays de Gozen, ça désigne l'Église, ça désigne le cœur du Christ, le cœur de Marie, ça désigne un lieu spirituel, le désert aussi, c'est-à-dire le lieu de la contemplation. Quand on contemple, on est à l'abri d'un certain nombre de fléaux qui sont décrits ici. D'une manière, si on regarde d'une manière actuelle, eh bien, quelqu'un qui vit ancré dans le Christ, qui vit des sacrements, qui va se confesser régulièrement, c'est comme s'il était au pays de Gozen et il ne sera pas frappé par le quatrième fléau qui est la vermine, ni par la peste du bétail, ni par la grêle, etc. etc. Et moi je pense que d'ailleurs que les fléaux numéro 6 et 8 également, moi je pense qu'ils doivent être protégés. C'est pas mentionné, mais en toute logique, voilà, ils restent protégés. Alors, il y a 10 plaies, on a dit, et puis il y en a une, moi je l'ai appelée zéro, c'est un préambule, hein. Vous savez, c'est ce combat entre, cette démonstration de prodige entre Moïse, Aaron et puis les magiciens qui vont jeter leurs bâtons, puis ça va devenir des serpents, c'est un peu une joute. Et pour chacun des fléaux, eh bien, il y a quelque chose qui va être frappé. Et donc, d'après moi, la cible, C'est la première ligne que vous avez dans le tableau. La cible, c'est vraiment le cœur, la fine pointe pour bien comprendre la plaie d'Égypte. Et je trouve que ce n'est pas forcément facile à comprendre. La cible, elle se trouve à chaque fois à peu près au niveau des versets. Quand vous avez la plaie d'Égypte qui est décrite dans un paragraphe, c'est à peu près au milieu. Et d'ailleurs, c'est très hébraïque de mettre ce qu'il y a de plus important au milieu. Hein, dans le Notre Père, dans la prière, souvent, c'est ce qu'il y a au milieu qui est le plus important, dans les textes, dans l'Évangile aussi. C'est au milieu parce que c'est au moment où le fléau s'abat et il est dit, c'est telle chose qui est frappée. Et on voit, qu'est-ce qui est frappé ? Premièrement, les prodiges. Voilà, les miracles. C'est-à-dire, il y a une démonstration du fait que les prodiges, les miracles du monde n'ont pas de valeur. Deuxièmement, les eaux. Donc les eaux, ça va être quand on s'appuie sur les forces occultes, quand on s'appuie sur ce qui n'est pas Dieu. Ça va devenir du sens, c'est-à-dire qu'on va être dégoûté, vous voyez, parce que la ligne d'après, c'est conséquence. Voilà. Donc les eaux, par exemple, deviennent puantes, c'est dit comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'elles ont une telle odeur, un tel aspect, qu'on n'a plus envie de s'appuyer sur le Nil. En fait, on est censé recevoir la pluie du Seigneur. Et le pharaon, lui, il disait, bah, moi je reçois le Nil, j'ai pas besoin de Dieu, donc j'ai pas besoin d'y croire. Et le Nil, il m'appartient, c'est moi qui l'ai fait, dit le pharaon. Dans le prophète Ézéchiel, c'est écrit ça, au chapitre 29. Et donc, le fléau, ça va être que ce sur quoi s'appuyait le pharaon, qui était des choses extérieures et qui étaient mauvaises, deviennent du sang. Et il y a du sang aussi pour les Hébreux, puisque les Hébreux, qui eux aussi se laissaient avoir un petit peu par la manière assez occulte de fonctionner de l'Égypte, par... ils s'éloignaient de Dieu régulièrement, etc. Et bien, eux aussi vont être frappés par ça, et ils vont plus pouvoir boire d'eau. Voilà, on a ensuite la terre qui est frappée, et la terre, ça va désigner plutôt toute l'humanité. La terre qui est frappée, c'est mon corps qui est frappé, c'est mon âme qui est frappée, c'est mon esprit qui est frappé, c'est je suis tourmenté, je suis inquiet, je suis triste. Voilà, à chaque fois que c'est marqué la terre, et quasiment tous les fléaux sont contre la terre, parce que ça va frapper une partie de notre humanité. Pour nous faire nous tourner vers Dieu. Et on a la poussière aussi qui est frappée, la poussière qui va désigner tout ce qui est superficiel. La poussière, c'est la superficialité. Et à la fin, on a les dieux de l'Égypte qui sont frappés. Voilà. Donc tout ça, ça permet de ramener petit à petit le peuple à Dieu, d'une manière surnaturelle. Donc quand j'exerce l'autorité, c'est ça qui va se passer. Donc si je prends l'exemple du sang, vous avez une ligne après avec les dommages collatéraux, parce qu'il y a d'autres choses qui sont frappées, qui à mon avis ne sont pas le cœur, mais il y a les poissons qui sont frappés, et on a parlé des poissons. Donc si j'exerce la miséricorde et que je frappe mes brebis en leur montrant par miséricorde en quoi la télé c'est mauvais par exemple, et ben je vais frapper les poissons parce que mes enfants ils vont se dire « Oh là là, mais d'après ce qu'il nous dit, effectivement, ces poissons qui vivent dans le Nil, donc c'est-à-dire dans... » la télé avec ce que ça peut contenir, effectivement, c'est mauvais, et donc ils vont prendre en dégoût les poissons, donc cette science apportée par ce Nil qui est la télé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, il faudrait prendre le temps de regarder chacun des objets, la terre, le bois, c'est ce à quoi on peut construire des idoles ou construire des objets pour Dieu, voilà, parce qu'on a construit les tables de l'Alliance et l'Arche, ou alors on construit des idoles. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont frappées, et donc pour chaque plaie, c'est comme ça que ça se passe. Et on a des plaies comme les grenouilles, la deuxième plaie, troisième colonne, ici, où on voit que ça s'abat aussi sur la maison, les serviteurs, etc. Et cette plaie, on retrouve la plaie qui va s'étendre aussi sur la famille. Vous voyez que par miséricorde, c'est toute la famille qui va porter un péché qui a été commis. Bon,